Vous écoutez Europe 1 ? Il est 19h.
Europe 1 soir.
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. La fusion de la carte d'identité et de la carte vitale est-elle la solution pour lutter efficacement contre la fraude sociale estimée entre 6 et 8 milliards d'euros par an par la Cour des comptes? C'est en tout cas la proposition phare du plan du ministre Gabriel Attal. Nous en parlons avec vous ce soir au standard d'Europe 1. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Nos invités à partir de 19h20, le magistrat Charles Pratt, spécialiste de ces questions, et le député Renaissance Mathieu Lefèvre. Nous vous attendons au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Mais avant toute chose, voici le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le RN est-il héritier de Pétain ? Elisabeth Borne dit que oui. Emmanuel Macron considère qu'il y a de meilleurs arguments dans le combat contre l'extrême droite. Le président a recadré sa première ministre. On vous raconte les coulisses de ce différend au sommet de l'exécutif dès le début de ce journal. Le plan contre la fraude sociale. Le gouvernement veut aussi s'intéresser aux retraités qui vivent à l'étranger. Dans ce journal, Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de terroriser les Russes. L'inauguration dans le Pas-de-Calais d'une méga usine de batteries électriques. Et puis, nous serons bien entendu à Roland-Garros où Richard Gasquet est en difficulté. C'est fini pour le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev.
Je vous rappelle le numéro du standard d'Europe 1 pour intervenir directement à l'antenne, parler avec nous de ce plan anti-fraude sociale présenté par le ministre Gabriel Attal. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
La tendance météo avec vous.
Eh bien, de l'instabilité orageuse demain, plus marquée qu'aujourd'hui sur le sud du pays, et grand beau au nord, et des températures jusqu'à 31 à Brive-la-Gaillarde.
On fait un point complet avec vous à la fin du journal. Y a-t-il vraiment de l'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ? C'est ce que semble montrer le nouveau sujet de discorde entre le président et sa première ministre.
Et ce sujet, c'est la stratégie à adopter vis-à-vis du Rassemblement national. D'abord, petit rappel de ce qu'a déclaré Elisabeth Borne dimanche sur Radio J.
Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse.
Héritier de Pétain ?
Oui, également héritier de Pétain.
Ce matin, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a vertement recadré sa première ministre, selon les participants, expliquant qu'il fallait attaquer le RN par le concret et le réel, et pas en utilisant des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Arthur Delaborde, vous pouvez nous dévoiler les coulisses de ce qui apparaît comme une attaque claire contre Elisabeth Borne.
Le RN n'est qu'un prétexte. Il voulait lui mettre une cartouche publiquement, explique très crûment un conseiller d'Emmanuel Macron. À ses yeux, ce n'était donc pas un recadrage, mais plus une attaque personnelle contre la première ministre. Alors pourquoi ? C'est une manière de lui remettre la pression, alors que beaucoup la voient rester à Matignon à l'issue des 100 jours, analyse un ministre. Cette mise au point du président est bienvenue, juge en tout cas un autre participant au Conseil des ministres. La diabolisation est une vieille ficelle qui ne marche plus depuis longtemps. C'est même contre-productif car ça permet aux élus RN de contre-attaquer en se victimisant, ajoute-t-il.
Et à Matignon, Arthur, on fait le dos rond.
Oui, l'entourage d'Elisabeth Borne explique qu'elle n'est pas affectée par ces propos d'Emmanuel Macron. Elle est d'ailleurs restée impassible au moment où il les a prononcés, puis elle a déjeuné comme à son habitude avec le président à l'issue du Conseil des ministres. Selon ses fidèles, sur Radio J, la chef du gouvernement n'a fait que dire spontanément ce qu'elle pense sur le RN, dans un contexte particulier puisqu'elle venait d'évoquer la déportation à Auschwitz de son père résistant et d'une partie de sa famille. Mais même si elle s'inquiète de la normalisation, comme le chef de l'État Elisabeth Borne pense que c'est en obtenant des résultats concrets pour les Français qu'on combat le parti de Marine Le Pen, précise un de ses conseillers.
Les informations d'Arthur Delaborde.
Et après ces querelles au sein de l'exécutif, venons-en à du concret, en l'occurrence le plan contre la fraude sociale annoncé aujourd'hui par Gabriel Attal.
Oui, fraude difficile à évaluer qui porte notamment sur les prestations sociales. Le gouvernement veut doubler les redressements d'ici 2027 avec notamment la mesure phare dont on a beaucoup parlé, la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. Mais ce n'est pas tout, Margot Faudéré, les contrôles seront également renforcés pour les retraités qui vivent à l'étranger.
Oui, en particulier pour ceux qui vivent
hors de l'Europe. L'idée fait suite à une expérimentation. Des contrôleurs ont été envoyés il y a plusieurs mois à Alger pour vérifier l'existence de pensionnés français quasi centenaires. Bilan de l'opération, sur 1000 dossiers, 300 étaient non conformes, soit un taux de fraude de 30%. Gabriel Attal veut donc lancer un programme de contrôle sur l'ensemble des retraités de plus de 85 ans qui vivent en dehors des frontières européennes, soit près de 500 000 personnes. Cela passera par des rendez-vous dans les consulats ou des banques locales pour vérifier l'état civil des retraités. Et pour Pascal Brindeau, ancien député UDI et rapporteur de la commission d'enquête sur la fraude sociale, cette mesure va dans le bon sens à une condition.
Ça implique simplement qu'il faut renforcer les moyens humains des consulats dans ces pays-là. Parce que sinon, vous allez avoir un embouteillage de rendez-vous, en plus des rendez-vous liés au titre de séjour ou autres visas, sur la question du contrôle des retraites.
Sur ce point-là, Bercy confirme sur le principe, mais ne donne pas de répartition pays par pays par souci de confidentialité. Ce que l'on sait, c'est que du fait des relations historiques entre les deux pays, 60% de ces retraités français de plus de 85 ans hors Union européenne vivent en Algérie.
Merci beaucoup Margot Faudéré du service économie. On en parlera également de ça hein, tout à l'heure, ces contrôles renforcés des retraités de plus de 85 ans hors de l'Union européenne avec vous et nos invités dès 19h20, vous chers auditeurs qui nous appelez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Le gouvernement qui tente de tourner la page de la réforme des retraites, mais le sujet ne va pas tarder à revenir au cœur de l'actualité.
Ah oui, la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger la réforme des retraites sera examinée en commission demain dans l'hémicycle. Le 8 juin, le député insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances, estime recevable cette proposition de loi. Mais la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, promet de tout faire pour empêcher le vote du texte. De son côté, l'intersyndicale bat le rappel des troupes et prévoit une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. Marie-Lise Léon, future patronne de la CFDT.
Il est aujourd'hui extrêmement clair que le 6 juin, il y a un mot d'ordre, c'est le refus des 64 ans et un appel à ce que démocratiquement, pour la première fois, le sujet des retraites soit débattu et qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Si à un moment le gouvernement fait tout ou certains groupes politiques pour empêcher cet examen, c'est bon pour personne. Ça ne fait que des perdants pour tous ceux qui vont devoir travailler 2 ans de plus et c'est perdant aussi pour la démocratie. Je pense que ça serait extrêmement grave qu'une réforme de cette nature passe sans aucun débat à l'Assemblée nationale, en tout cas sans aucun vote à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est quelque chose d'inédit et ça serait extrêmement inquiétant pour notre démocratie.
Propos recueillis donc par Barthélémy Philippe. Mobilisation le 6 juin et examen, on le rappelle, du texte à l'Assemblée le 8.
À l'étranger, cette attaque de drones sur Moscou qui a surpris les habitants de la capitale située à 500 km de l'Ukraine.
Oui, des drones qui se sont abattus à l'aube sur Moscou et sa région, faisant 2 blessés légers. Juste avant, Kiev avait été la cible d'une nouvelle frappe de missiles et de drones russes, la 3e en 24 heures. Pour Vladimir Poutine, en tout cas, aucun doute, les drones sur Moscou sont bien l'œuvre des Ukrainiens, Wilfried de Villers.
Oui, le président russe s'est exprimé tout à l'heure après l'attaque qui a frappé Moscou.
Le système de défense anti-aérienne de Moscou a fonctionné normalement, de manière satisfaisante, bien qu'il y ait encore des progrès à faire. Le régime de Kiev a fait un choix, tenter de terrifier la Russie et les citoyens russes en frappant les bâtiments résidentiels.
C'est la première fois qu'une attaque d'une telle ampleur est lancée contre Moscou. Pour Vladimir Poutine, c'est très clair, il s'agit bien de représailles après ces frappes russes contre le quartier général des services de renseignement militaire ukrainien à Kiev, c'était hier. Mais voilà, l'Ukraine dément toute implication dans les frappes qui ont visé Moscou à l'aube. Pour le spécialiste des questions militaires liées à l'aviation Xavier Tittelmann, l'implication de Kiev est incertaine.
Par le passé, quand il y avait une attaque qui était évidemment de leur part, par exemple le raid des hélicoptères sur Belgorod, ils n'avaient rien dit. C'est-à-dire qu'ils avaient laissé dire, voilà, on ne sait pas. Par contre, quand ils disaient « c'est pas nous », a priori, ce n'était pas eux. Les attaques sur le Kremlin, ils ont dit « c'est pas nous ». Et là, c'est la même chose. Ce qui confirme que ce serait plutôt des partisans ukrainiens qui ont réussi à s'organiser pour conduire ces attaques.
Une attaque possiblement indépendante, donc Xavier Tittelmann précise que les drones utilisés, les Beaver, Castor en français, sont eux aussi de fabrication civile, transformés pour un usage militaire.
Wilfried de Villers.
Restez avec nous sur Europe 1, il est 19h10. Dans quelques instants, nous allons dans le Pas-de-Calais avec l'inauguration de la première giga-usine de batteries électriques. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé.
Europe 1, il est 19h11, la suite du journal d'Hélène Zélani. Il y avait du beau monde à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, pour le baptême de la première giga-usine française de batteries pour voitures électriques.
Trois ministres français, un italien et un allemand se sont retrouvés donc dans le Pas-de-Calais, non loin de Lens. D'ici 2030, le site produira 500 000 batteries par an pour les voitures électriques fabriquées en France, sachant que les moteurs thermiques seront interdits dans l'Union européenne à partir de 2035. Maximilien Carlier assistait à cette inauguration.
C'est un immense bâtiment gris de 600 mètres de long, 6 fois la longueur d'un terrain de football. À l'intérieur, 200 salariés, casque de chantier vissé sur la tête. Florian, 29 ans, est arrivé il y a 4 mois.
C'est une vraie fierté de faire partie de cette aventure, d'être un pionnier en France des gigafactories, des batteries françaises.
Alors beaucoup d'employés recrutés récemment viennent de l'usine Stellantis, ex-PSA, également à Douvrin. Rendez-vous compte, c'est situé juste à côté de la Gigafactory. Un grillage sépare les deux sites. En fait, d'un côté, on fabrique des moteurs essence, diesel, hybride. De l'autre, des batteries électriques. Angélique est restée 23 ans chez Stellantis, puis a changé d'entreprise.
J'ai traversé la rue. C'est une nouveauté, un challenge, un défi. Après, il faut accepter le changement, aller ailleurs. Mais avec des technologies avancées, on va dire, et complètement différentes de ce que j'avais à Stellantis. Quoi.
C'est un pari, ajoute-t-elle. Mais pour les syndicats de Stellantis, cette transition thermique électrique va entraîner de la casse sociale. 1200 personnes travaillent encore sur site. 400 vont être reclassées au sein de la Gigafactory.
Reportage de Maximilien Carlier dans le Pas-de-Calais pour Europe 1.
L'immobilier, c'est du jamais vu depuis 8 ans, une baisse des prix dans l'ancien.
Et oui, inflation, montée des taux d'intérêt, difficile, voire impossible pour les ménages d'emprunter. Et donc, conséquence logique par rapport au quatrième trimestre 2022, les prix ont baissé de 0,2% selon l'indice notaire INSEE qui fait référence. Écoutez l'analyse de Loïc Quentin, c'est le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier.
La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui était inévitable en raison de l'augmentation des taux régulières auxquels sont confrontés les acquéreurs sur le marché de l'immobilier. Nous sommes passés des conditions de financement de 1% à quasiment 4% estimées à la fin de l'année, ce qui se traduit par une chute brutale et réduction de la capacité d'emprunt de 25% pour un emprunteur immobilier. À titre d'exemple, pour 200 000 euros prêtés il y a encore 20 mois, aujourd'hui, ce n'est plus que 150 000 euros. Donc, inévitablement, les acheteurs boudent l'acquisition, les vendeurs ne vendent pas et sont contraints d'accorder une baisse des prix. Et cette baisse de prix ne fait que commencer et va se poursuivre dans les mois à venir. C'est toujours comme cela en économie sur les marchés de l'immobilier. La baisse de la demande précède toujours la baisse des prix. Nous sommes rentrés dans ce flux et ce flux va se prolonger.
Une démonstration très claire du président de la FNAIM, interrogé par Inès Zegloul. Vous l'avez peut-être constaté, si votre opérateur téléphonique est Orange, une importante panne nationale qui, depuis le début de l'après-midi, perturbe les appels, aussi bien passés que reçus. En revanche, Internet fonctionne. Orange dit travailler sur cette panne et promet un rétablissement rapide.
Tout de suite, retrouvez Direct Match avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Alors Roland Garros, on va partir Porte d'Auteuil où Richard Gasquet affronte en ce moment un autre Français, Arthur Rinderknecht, et c'est un match très disputé, Cédric Chasseur.
1h44 de jeu sur le court Suzanne Lenglen, 1-7 partout entre les deux tricolores. Rinderknecht avait remporté la première manche 6-4, Richard Gasquet la deuxième 6-2 et Rinderknecht a fait le break dans la troisième manche. Il mène 3-1 et il sert désormais pour mener 4-1. Les autres Français en ce moment sur les cours, sur le numéro 6, cinquième manche pour Grégoire Barrère face au Finlandais Ruus Uvuori. Il est mené 4-2, un break de retard face au Finlandais. Quentin Lys sur le cours numéro 7, lui, est à 1-7 partout face à Guido Pella, l'Argentin. Il mène 3-1 dans la troisième manche. Un mot aussi de la numéro 1 mondiale sur le cours Philippe Châtrier, le cours central, la tenante du titre Iga Świątek, qui mène 1-7-0, 6-4 face à Cristina Buxa, l'Espagnole. Et elle vient de faire le break. Elle mène 2-0 dans la deuxième manche. Et je vous rappelle juste pour terminer la défaite surprise de la tête de série numéro 2 dans le tableau masculin, le russe Daniil Medvedev, qui a été battu à la surprise générale par le brésilien Thiago Seybot-Wilch en 5 manches un peu plus tôt dans l'après-midi.
Merci Cédric Chasseur en direct de Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
Et on retourne sur la terre battue de la
Porte d'Auteuil tout à l'heure vers 19h45 pour le récapitulatif complet de cette troisième journée des internationaux de France. Nous serons avec Axel May et Cédric Pioline.
Et puis le rugbyman Mohamed Awas, condamné à un an de prison pour violence conjugale. Le pilier du 15 de France n'ira pas en prison. Sa peine pourra être aménagée. Sur le plan sportif, son futur club Clermont fait marche arrière et annonce que Mohamed Awas ne pourra pas porter ses couleurs la saison prochaine car les faits qui lui sont reprochés sont inacceptables. On en vient maintenant au marché financier avec Claire Lemaître de boursier.com et c'est une séance difficile à Paris.
Oui, le CAC 40 termine de justesse au-dessus des 7200 points. On est à 7210 points ce soir, une baisse de 1,3%. Marché toujours focalisé sur les États-Unis et qui ne sera pas rassuré tant que l'accord sur le plafond de la dette américaine ne sera pas voté. Cet accord doit être soumis aux deux chambres du Congrès américain. En attendant, les marchés européens voient rouge, moins 0,3 pour Francfort, moins 1,4 pour Londres, moins 1,3 pour le CAC 40 à 7210 points ce soir.
Merci Claire Lemaître.
Et merci à vous Hélène Zélani. À tout à l'heure 20h pour un nouveau journal sur Europe 1. Je vous rappelle le numéro du standard 01 80 20 39 21. On va largement parler de la fraude sociale dans les minutes qui suivent dans Europe 1 Soir. Nos invités Charles Prats, magistrat et secrétaire national de la lutte contre la fraude sociale à l'UDI et le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, 01 80 20 39 21 pour intervenir à l'antenne. On en vient à la météo, le temps avec Valérie Darmon. Valérie, encore de la pluie sur les reliefs du sud.
Effectivement, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Il pleut et il tonne dès le lever du jour des Alpes vers le Languedoc-Roussillon et plus tard dans la journée en Corse sur le massif central Midi-Pyrénées. Sur ces régions bien arrosées, les rafales de vent devraient souffler jusqu'à 80 km/h et par endroits, ils vont s'accompagner de grêle. À partir de la mi-journée, ces averses s'étendent des régions allant du Pays basque au massif du Jura, mais deviennent plus rares sur le littoral méditerranéen. Pour le reste du pays, RAS, le soleil se montre une nouvelle fois très généreux. Au lever du jour, le thermomètre affiche des valeurs entre 9 et 14 sur le nord du pays, 14 à 18 au sud, les maximales entre 16 et 18 le long des côtes de la Manche, 24 à 28 partout ailleurs avec des pointes jusqu'à 30 dans le Bordelais et 31 à Brive-la-Gaillarde, 28 à Paris et Strasbourg, 22 à Brest et Biarritz.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve tout à l'heure peu après 23h pour un nouveau point sur les couleurs du ciel. 01 80 20 39 21, le standard d'Europe 1 pour réagir à l'antenne, parler avec nous de la fraude sociale, son ampleur, ses moyens de lutter contre. Nous serons avec Charles Prats et Mathieu Lefebvre dans quelques instants, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir,
19h, 20h, Raphaël Delvolvé.